Voici la tisane, me dit Wong en déballant une théière enveloppée d'un tissu épais et enfouie au fond de son sac. Prends-la avant de te coucher, puis allonge-toi et attends. Normalement, le remède se boit chaud. Froid, il doit aussi marcher. Seulement, c'est plus amer. Je te laisse, sinon tes parents vont se douter de quelque chose. Courage ! Demain matin, tu seras débarrassé de ce mauvais sort. Mère nous quitte avant le repas. Jusqu'au lendemain, elle veillera sur ma sœur, alitée depuis plusieurs jours. Je dîne seule avec père. Comme toujours, sa voix m'apaise. Je l'interroge sur ses traductions. Son regard s'anime. Il me récite quelques sonnets. Père ne supporte pas mon indifférence à l'égard des civilisations étrangères. Il considère que cet égocentrisme culturel perd la Chine. J'explose. Je hais les Anglais qui nous ont fait la guerre à deux reprises pour nous vendre l'opium qu'ils interdisaient chez eux. Je déteste les Français qui ont pillé, saccagé et puis brûlé le palais de printemps, perle de notre civilisation. Ici, en Mandchourie, depuis que le Japon dicte sa loi sur notre sol, tout le monde crie au progrès, à la croissance économique. Je hais les Japonais. Demain, ils auront envahi l'ensemble du continent et vous serez soulagés de voir une Chine anéantie se débarrasser enfin de son obscurantisme. Blessé par mes propos, il se lève, me souhaite bonne nuit et se retire dans sa chambre. Je quitte la salle à manger en traînant le pas. J'ai eu tort d'accuser mon père. Il ne vit que pour la poésie. Je verrouille ma porte et tire les rideaux. Assise sur le lit, je regarde la théière posée au milieu de la table. Avec mes écharpes et mes mouchoirs, je fabrique une corde solide. Mourir, c'est si simple. Une brève souffrance. En un clin d'œil, on franchit la porte. On avance dans un autre monde, plus de tourments, plus d'angoisse. Là-bas, on dort si bien. J'attrape la corde et attache les deux extrémités aux anses du lit à baldaquin. Le nœud est immobile comme un arbre poussé là il y a 1000 ans. J'y passe la tête. La corde sous le menton me gêne. J'aspire au vide, à la chute dans l'abîme. La volupté m'effraie. Je suis ici et là-bas. Je suis moi. Et je ne suis plus. J'ôte ma tête de la boucle et me rassois sur le lit. Je saisis la théière. Ah, la liqueur est si amère que je m'interromps plusieurs fois pour respirer. J'attends, la lumière allumée. Depuis la mort de Mine, je ne peux plus m'endormir dans l'obscurité. Je crains son fantôme, je le fuis. Je suis réveillée par mes propres gémissements. Je ne sens plus le poids de mes membres. Une vague de spasmes, puis une autre. J'ai les reins brisés. Debout ou allongée, je n'arrive pas à me débarrasser de cette sensation que je vais accoucher d'un ballon plombé. Le sang vient pendant le petit déjeuner quand je n'y pense plus, quand plus rien n'occupe mon esprit. Un fleuve brûlant qui rampe entre mes jambes. Je me précipite aux toilettes. Sur la bande hygiénique, je découvre un liquide écumeux et noir. Je n'éprouve ni joie, ni tristesse. Rien désormais ne peut m'émouvoir. Il est l'heure de partir à l'école. Pour éviter le déshonneur d'une robe tachée, je confectionne une bande hygiénique rembourrée de tout ce que je trouve. Coton, tissu, papier, enfile deux culottes l'une sur l'autre et revêt une vieille robe en lin de ma sœur que j'ai toujours détestée à cause de sa couleur triste et de sa coupe large. Je noue mes cheveux en une tresse unique et l'attache avec un mouchoir. Descendue du pousse-pousse, j'avance à petits pas vers le bâtiment scolaire. Autour de moi, les écolières courent. Le matin, la jeunesse est bruyante comme un essaim de moineaux élancé vers le ciel. Une camarade de classe me tape sur l'épaule. « Hé, tu ressembles à une vieille de 30 ans !»